Bonjour, le secrétaire général va vous présenter ses remarques et ensuite il répondra à quelques questions. Bonjour, nous venons de conclure la dernière séance de travail de cette réunion des ministres de la Défense. Nous avons pris des décisions qui vont renforcer encore la sécurité de notre alliance. L'OTAN est décidée à projeter la stabilité au-delà de ses frontières et à jouer un rôle clé dans la lutte contre le terrorisme. Nous soutenons la coalition internationale anti-Daesh par le biais de vols de surveillance de nos AWACS et sous la forme de l'entraînement des forces irakiennes. La coalition a enregistré des succès significatifs. 98% du territoire que Daesh a occupé en Irak et en Syrie a désormais été libéré et plus de 7,5 millions de personnes ont été libérées du joug de Daesh. Nous devons désormais veiller à pérenniser ces succès, car la sécurité à l'extérieur emporte la sécurité intérieure. Nous avons donc décidé de lancer la planification d'une mission d'entraînement en Irak, et cela à la demande à la fois du gouvernement irakien et de la coalition internationale. L'OTAN entraîne déjà les forces irakiennes, mais mettre sur pied une mission assurera la durabilité de nos efforts actuels de formation. Cette mission tirerait bénéfice de meilleures ressources et d'un processus bien établi de mise à disposition de troupes par les alliés. Nous allons également nous préparer à aider les forces irakiennes à se professionnaliser davantage en mettant sur pied des académies et écoles militaires spécialisées. Nous prévoyons, pardon, de renforcer la présence de l'OTAN, mais nous ne nous préparons pas à une mission de combat. Nous pouvons faire la différence avec nos formateurs et nos conseillers, en pleine collaboration avec le gouvernement irakien et la coalition internationale, ainsi qu'avec une série d'autres acteurs tels que l'Organisation des Nations Unies et l'Union européenne. Nous avons également examiné les autres priorités de l'Alliance en Afrique du Nord et au Moyen-Orient. Nous sommes convenus de renforcer notre capacité de réaction face aux crises régionales à venir, y compris à travers une planification renforcée et des exercices. Notre expérience a montré que renforcer les capacités locales constitue l'un des meilleurs outils à notre disposition pour lutter contre le terrorisme. L'OTAN continue de contribuer au renforcement des forces de sécurité afghanes. Nous travaillons avec d'autres partenaires tels que la Jordanie et la Tunisie. Nous les aidons à moderniser leurs institutions de sécurité, à entraîner leurs forces. Nous sommes penchés sur ce que nous pouvions faire de plus, y compris en collaboration avec l'Union européenne. Hier soir, nous avons été rejoints par la représentante de l'Union européenne, Federica Mogherini, et par nos partenaires, la Finlande et la Suède. Nous avons eu un débat très positif sur la collaboration entre l'OTAN et l'Union européenne, dont nous reconnaissons tous l'importance stratégique. Nous sommes engagés à élever le niveau de notre collaboration sur la mobilité militaire, sur la cyberdéfense et sur la lutte contre les menaces terroristes. Nous avons également débattu de décisions récentes de l'Union européenne en matière de défense et sur leur complémentarité avec le travail de l'OTAN. Cette réunion ministérielle a contribué à poser les fondations du sommet de l'OTAN qui se tiendra au mois de juillet. Et ce sommet des dirigeants de l'OTAN fixera le cap de notre alliance pour les années à venir. Voilà, je vais à présent répondre à quelques questions. CNN, la quatrième rangée. Merci, Ray Brown, CNN. Je voulais aborder la question du partage du fardeau. Vous n'en avez pas parlé dans vos remarques. Il y a beaucoup de pression politique pour obliger les alliés qui ne consacrent pas 2% de leur PIB à la défense à élaborer des plans pour y parvenir. Apparemment, c'est le cas de 13 ou 14 pays, mais vous n'avez pas nommé ces 13 pays. Est-ce qu'il ne serait pas utile d'identifier ces pays, de les nommer pour les encourager à élaborer des plans nationaux?
Le message sur le partage du fardeau est que nous faisons des progrès, mais qu'il reste beaucoup à faire. En 2014, nous avons décidé d'arrêter les réductions avec une augmentation progressive pour nous diriger vers 2% de PIB consacrés à la défense. Depuis, nous avons arrêté les réductions et en Europe et au Canada, il y a eu une augmentation des dépenses de défense pour la première fois en de nombreuses années. Et nous sommes en train de nous diriger vers 2 % du PIB étant consacré à la défense. Donc nous suivons la bonne voie. Tous les alliés de l'OTAN dans le plan national ont promis de continuer d'augmenter leurs dépenses de défense en valeur réelle. En 2014, 3 alliés avaient déjà respecté l'objectif de 2 %. Cette année, 8 alliés devraient respecter l'objectif. Et d'ici 2024, 15 alliés, d'après ce qu'ils ont dit, auront atteint les 2 % au moins. Donc, c'est un bon début. C'est la première fois qu'il y a des plans nationaux qui vont être actualisés. Nous allons continuer d'inciter les pays qui n'ont pas encore fourni des plans qui respectent l'objectif des 2 %. Nous allons les encourager à le faire. Donc, c'est un début. Et nous allons continuer d'essayer d'obtenir encore plus de progrès. Nous allons publier des chiffres pour les alliés individuels pour ce qui concerne les dépenses de défense. Nous le faisons régulièrement. Ce sont des chiffres qui vous seront fournis ultérieurement. Les plans nationaux ne vont pas être publiés, mais les chiffres pour les dépenses de défense seront fournis pour chaque allié individuel ultérieurement.
Associated Press, Lauren Cook. À propos de l'Irak, Monsieur le Secrétaire général, est-ce que vous pourriez étoffer un peu vos remarques? Il y a actuellement des missions d'entraînement, des équipes d'entraînement sur place. Plusieurs pays ont évoqué la possibilité de commencer à travailler dans d'autres villes irakiennes, voire à l'extérieur. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus?
Les activités d'entraînement actuelles menées par l'OTAN en Irak seraient basées sur des MTT, des équipes mobiles de formation. Ces équipes sont envoyées et restent quelques jours ou quelques semaines avant de quitter le pays. C'est une équipe de base qui est très limitée, qui organise ces équipes mobiles, qui assurent la formation avant de repartir. Et il y a des officiers irakiens qui sont formés dans les pays alliés et dans des pays partenaires. La Serbie, par exemple, offre une formation pour les officiers irakiens dans le cadre de l'OTAN en tant que pays partenaire. Donc, les activités de formation actuelles seraient basées sur cette petite équipe de base qui organise cette activité et facilite la venue d'équipes mobiles pour former les officiers irakiens. Le but est de passer de ce concept à un concept plus substantiel, basé sur des formateurs sur place en Irak, où nous allons former les formateurs pour les aider à construire des écoles de défense et des académies de défense. Nous ne savons pas exactement où pour l'instant. Nous sommes en train d'assurer une formation pour la lutte contre les engins improvisés. Il y a la médecine, il y a la logistique et d'autres domaines. Nous allons examiner les possibilités. Il y aura une montée en puissance. Nous ne savons pas quel sera le nombre exact de formateurs. Et nous avons commencé la planification en la matière. Donc, nous allons passer de ces équipes mobiles vers une mission plus permanente de formation.
Vladimir Dobrovolsky from Russian News Agency. Monsieur le Secrétaire général, actuellement, la Russie n'a pas d'ambassadeur à l'OTAN. Quel sera, selon vous, l'impact de cette absence sur les relations entre l'OTAN et la Russie? Avez-vous l'intention d'en parler avec le ministre Lavrov plus tard cette semaine? Et quand pensez-vous qu'un prochain Conseil OTAN-Russie pourra se tenir? Est-ce que ce sera encore cette année? Et à quel niveau cela sera-t-il organisé?
Change. Eh bien, les pays changent régulièrement d'ambassadeurs. Nous avons affaire à une rotation. Parfois, il faut attendre un certain temps. Un ambassadeur est rappelé dans son pays et il faut attendre avant l'arrivée de son remplaçant. C'est ce qui s'est passé la dernière fois. J'attends avec impatience l'occasion de parler au ministre Lavrov à Munich. Ceci fait partie de notre dialogue politique avec la Russie. Nous allons discuter des différentes questions et je m'attends à évoquer ce qu'il faudra faire pour que le Conseil OTAN-Russie puisse être une plateforme de dialogue entre l'OTAN et la Russie. Je pense que le dialogue est toujours important. Et surtout, lorsqu'il y a beaucoup de tensions et des relations difficiles comme aujourd'hui. Après 2 années sans réunion dans ce format entre 2014 et 2016, je suis content qu'il y ait eu 6 réunions du Conseil OTAN-Russie pour évoquer différentes questions, l'Ukraine, par exemple, et la transparence militaire, la réduction des risques, la sécurité aérienne dans la région balte. Là, il y a des progrès. Il y a un groupe d'experts dirigé par la Finlande pour examiner des procédures et des lignes directrices pour améliorer la sécurité pour l'aviation dans la région balte. Et nous utilisons le Conseil OTAN-Russie pour des exposés par les deux parties concernant des exercices militaires et au sujet de postures militaires. Donc, j'attends avec impatience cette rencontre avec le ministre Lavrov. Nous avons eu beaucoup de rencontres quand j'étais Premier ministre de la Norvège aussi. J'attends avec impatience cette rencontre.
J'ai une question à propos de l'ex-République yougoslave de Macédoine. Vous y êtes rendu récemment, Monsieur le Secrétaire général. Est-il probable que les RIM adhèrent prochainement à l'OTAN ? Quel serait le statut de ce petit pays et que pensez-vous de sa relation avec la Grèce ?
En 2008, au sommet de Bucarest, l'OTAN a décidé d'inviter l'ancienne République de Macédoine qui deviendrait membre dès que le problème du nom aurait été résolu de façon acceptée par tous. Beaucoup d'années se sont écoulées depuis sans solution. J'espère que les nouvelles initiatives actuelles vont conduire à une solution acceptable aux yeux de tous. Récemment, je suis allée à Skopje. Nous avons discuté de ces questions et le gouvernement, le nouveau gouvernement Skopje, avec le Premier ministre Olensayev, a dit clairement qu'il aimerait faire preuve de souplesse pour essayer de trouver une solution. Et récemment, j'en ai discuté avec le Premier ministre Tsipras de la Grèce et il y a le négociateur de l'ONU qui a avancé de nouvelles propositions pour essayer de résoudre le problème du non. Je vais faire très attention, je ne vais pas me livrer à la moindre spéculation concernant la probabilité d'un accord. C'est quelque chose qui est un problème depuis plus de 20 ans, depuis 1995, et le médiateur de l'ONU s'en occupe depuis de nombreuses années. J'espère qu'il sera possible de trouver une solution. Ainsi, nous allons résoudre un problème qui existe depuis très longtemps entre la RIM et la Grèce. Et la RIM pourra ainsi devenir membre de l'Alliance. Je les incite donc à faire preuve de souplesse et d'essayer de trouver une solution. Il faut discuter de la question avec le ministre de la Défense grec.
Le Kabul Times. Merci, Monsieur le Secrétaire général. Vous avez indiqué que la Géorgie et la Tunisie souhaitaient aider à former les forces de sécurité afghanes. Y a-t-il un délai pour la conclusion de la mission Resolute Support? Et je sais que les talibans ont adressé une lettre au commandement américain de la RSM. Quelle est votre réaction?
Notre mission Resolute Support en Afghanistan est une mission axée sur les conditions. Le but est de continuer de renforcer les forces de sécurité afghanes. Ainsi, elles pourront protéger leur propre pays en assumant toute la responsabilité de la sécurité en Afghanistan comme aujourd'hui. Beaucoup de progrès ont été réalisés. Il y a de nombreux problèmes à résoudre. En Afghanistan, il y a la violence, le terrorisme, des attentats meurtriers visant des civils récemment à Kaboul. Et pourtant, il y a eu des progrès pour ce qui concerne la qualité des forces afghanes. Nous avons aidé dans la formation de la force spéciale, la force aérienne, et nous avons aidé pour le commandement et le contrôle. Et nous sommes en train de renforcer notre présence dans le pays pour offrir plus de soutien encore, pas dans une opération de combat de l'OTAN. Il s'agit de former, de conseiller, d'aider les forces afghanes. Pour nous, il n'y a pas de solution militaire pour ce conflit en Afghanistan. Nous pensons vraiment qu'il faut une force afghane forte. Ainsi, nous pourrons créer les conditions d'une solution politique. Les talibans doivent comprendre qu'ils ne vont jamais gagner sur le champ de bataille. Il faut qu'ils participent à des négociations afin d'accepter une solution politique. Voilà pourquoi nous fournissons ce soutien militaire. Il s'agit de faciliter la recherche d'une solution politique. Nous saluons tous les efforts destinés à trouver une telle solution politique. Nous pensons vraiment qu'il faut que les Afghans s'approprient le processus de paix. Donc, il s'agit de soutenir ce processus qui appartient aux Afghans. Et cela comprend la recherche d'une solution politique avec les talibans. Mais les talibans doivent comprendre qu'ils ne peuvent pas gagner sur le champ de bataille. Il faut qu'ils participent à des négociations.
Agence Reuters. Monsieur le secrétaire général, pour en revenir à l'Irak, êtes-vous favorable à une affectation limitée avec une date de fin, sachant la présence longue de l'OTAN en Afghanistan à durée indéterminée? Et ensuite, est-ce que vous allez ouvrir la participation à cette mission d'entraînement de formation à des pays partenaires éventuellement?
Bien sûr, nous allons être très contents de bénéficier du soutien des partenaires, comme toujours, à l'OTAN. Nous avons déjà des partenaires qui nous aident avec ces activités de formation en Irak. J'ai parlé de la Serbie qui assure des activités d'équipe mobile pour la médecine militaire et nous serons très contents d'avoir cela dans la mission de formation future. Je ne devrais pas me livrer à la moindre spéculation concernant des échéances. Ce que nous avons appris en Afghanistan, en Irak et ailleurs est que on peut gagner sur le champ de bataille, mais après, c'est autre chose. Il faut pouvoir stabiliser le pays. Il faut permettre au gouvernement, aux forces sur place d'assumer la responsabilité de la sécurité dans leur pays pour stabiliser le pays. L'enseignement tiré de l'Irak est qu'il est dangereux de partir trop tôt parce que nous serons peut-être dans une situation où il faudra retourner dans le pays pour mener un combat. Il faut rester aussi longtemps que nécessaire pour qu'il n'y ait plus besoin d'opérations de combat.
Good morning.
Bonjour. Je représente un journal d'Athènes. Nous avons vu cette semaine une recrudescence des activités et des troubles en mer Égée. Est-ce que vous avez pu en discuter avec le ministre turc de la Défense? Est-ce que ces tensions entre deux alliés de l'OTAN vous préoccupent?
J'ai évoqué cette question dans des conversations avec les ministres grecs et turcs pendant cette réunion ministérielle. Nous avons été informés de l'incident à l'est de la mer Égée, impliquant des navires des gardes-côtes. Je me félicite du fait que les deux premiers ministres On en discutait au téléphone. Je les incite à continuer ces contacts directs. Comme ça, nous pourrons éviter des incidents semblables à l'avenir. Nous pourrons ainsi réduire les tensions et éviter toute escalade. La Turquie et la Grèce sont deux alliés précieux pour l'OTAN. Nous aimerions faire tout notre possible pour éviter de véritables problèmes, pour éviter toute escalade dans ces tensions entre les deux pays.
Merci beaucoup. Ceci conclut ce point presse.